Chaque midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Samuel Laurent.
Bonjour.
Journaliste au Monde, responsable pendant 5 ans de la rubrique des décodeurs. Vous nous racontez l'enfer de Twitter. J'ai vu naître le monstre aux éditions Les Arènes. Twitter va-t-il tuer la démocratie? Et votre récit ressemble à celui d'un alcoolique repenti. Le plaisir, l'addiction au fil de tweets, l'ivresse de se sentir important sur le réseau, d'exister par vos commentaires, surtout et n'importe quoi. Et la gueule de bois, le retour de bâton, les insultes, les menaces, les effets de meute. Vous avez failli laisser votre santé et vous avez préféré quitter la vérification des faits, le fact-checking qui vous a valu tant de haine. Avant de détailler cela, je voudrais ne pas égarer une partie de ceux qui nous écoutent et qui ne pratiquent pas Twitter, parce que c'est aussi l'une des caractéristiques de ceux qui, comme vous, sont tombés dans le chaudron. Ils pensent que Twitter, c'est toute la France, c'est tout le monde. Or, pas du tout.
Non, pas du tout. Twitter, c'est un réseau qui comprend à peu près 4 millions d'utilisateurs quotidiens en France, ouais. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport à Facebook, non, ou par rapport à Instagram. Mais ce n'est pas n'importe qui, ces 4 millions de personnes. C'est notamment énormément de journalistes, énormément de politiques qui sont quasiment tous dessus, pas forcément actifs, mais en tout cas attentifs à ce qui s'y dit, plus qu'aucun autre réseau, et ça fait partie du problème d'ailleurs à mon sens.
Les décideurs, des responsables en tout genre, et pour qui Twitter était et toujours en partie une formidable source d'information.
Oui, ça reste un outil, et là encore, il ne faut pas non plus tout jeter. Twitter est un outil de veille dont je continue moi à me servir, qui a remplacé le fil AFP pour beaucoup de gens dans les rédactions, et qui sert énormément à s'informer en étant conscient quand même de ses limites et de ses dangers, qui sont notamment ces polémiques quotidiennes, ces clashs quotidiens dans lesquels on a vite fait de tomber.
Quand est-ce que ça a basculé? Vous pensez que c'est en 2011, à l'approche de la présidentielle, avec l'entrée en masse des politiques sur Twitter?
Oui, je dirais qu'il y a trois stades. Il y a un premier stade où c'est vraiment un outil encore ludique, on n'est pas beaucoup, c'est un truc de jeunes branchés technologie, etc. Puis il y a la présidentielle de 2012 avec l'arrivée des militants et des politiques en masse, et là Twitter devient plus sérieux et devient un outil militant. Un exemple que je prends dans le livre, c'est celui de la Manif pour tous, qui va s'en servir beaucoup pour communiquer hors médias. Puis c'est l'arrivée en masse des politiques, qui trouvent là aussi un outil très pratique pour s'adresser directement à leurs fans sans passer par le filtre des journalistes. Et après, la deuxième étape que je mets, mais qui évidemment est subjective, c'est celle de 2015, où il y a une espèce de bascule avec les attentats, avec l'année horrible que vit la France, vers ce Twitter de l'indignation permanente et quotidienne qu'on connaît maintenant, quoi.
Twitter est donc un réseau où les gens se répondent, s'interpellent, mais en touchant directement leur cible. Alors là, je m'adresse aussi à ceux qui ne pratiquent pas Twitter. Si vous publiez un papier sur n'importe quel site d'information ouvert aux commentaires, l'auteur peut parfaitement ignorer ces commentaires. Il n'est pas obligé de les lire. Sur Twitter, les gens qui vous répondent vous mentionnent et vous recevez directement ces messages, Samuel Laurent.
Absolument. Et puis, une des caractéristiques, c'est qu'effectivement, le message de la personne qui va vous répondre a exactement la même forme que celui que vous avez tweeté. C'est-à-dire, pour prendre un exemple caricatural, un prix Nobel peut faire un tweet pour dire quelque chose et Toto33 peut citer son tweet pour s'en moquer et avoir plus de partage que le prix Nobel, en fait. Et c'est tout un peu le problème de cette horizontalisation totale qu'établit le réseau.
Donc, comme vous recevez directement les messages, ça fait que, comme ça vous est arrivé, des milliers de messages d'insultes reçus en une journée ou en quelques heures peuvent vous rendre fou.
Voilà, et puis même quand ça peut durer sur des mois, c'est le supplice chinois de la goutte d'eau. Vous savez, vous prenez une goutte d'eau sur le front pendant des jours et des jours, ça finit par affecter. Et même quand on pense s'être blindé, parce que des harcèlements, j'en ai vécu un bon paquet en 10 ans sur Twitter, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fini par dire stop parce que c'était plus tenable, quoi.
Ouais, alors, question de quelqu'un qui n'est pas un utilisateur actif de Twitter, il n'y a pas moyen d'ignorer ces mentions, de ne pas les lire?
Si, il y a moyen de les ignorer, de ne pas les lire, c'est ce que j'arrivais à faire, mais le problème, c'est que les gens vous rattrapent, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous suivent, qui vont reprendre ces choses-là, qu'il y a des... C'est très difficile, en fait. On peut essayer, je pense qu'il y a des gens qui y arrivent, de totalement tout ignorer. Ce qui est compliqué, c'est quand vous faites de la vérification factuelle et quand, comme moi, pendant longtemps, vous pensez que c'est nécessaire de discuter avec les gens, qu'il faut rentrer dans ce jeu-là.
Pour essayer de les convaincre.
Mais sur
Twitter, personne ne convainc personne,
voilà,
en fait.
Voilà, probablement stupide. mais c'est vrai que dans les débuts de Twitter et dans les années 2010, on était dans cette utopie de la conversation globale. C'était formidable. Il fallait descendre de notre piédestal. Donc j'ai essayé pendant des années de discuter avec des gens, puis j'ai arrêté parce que je me rendais bien compte que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à se blinder, mais pas de tout et pas tout le temps, parce que quand c'est vraiment là où la vague de harcèlement, quand elle est très haute, les gens vont vous chercher sur d'autres réseaux, sur votre Facebook, sur votre...
Ah oui.
Voilà, où vont interpeller vos proches, ou votre compte professionnel, enfin le compte des décodeurs par exemple, quand c'est pas votre épouse, quoi. Mmh. Donc,
L'une des premières campagnes contre vous, c'était pour l'histoire d'un obscur rappeur qui avait mis en ligne une chanson « Pendez les Blancs », vague d'indignation contre ce clip. Vous faites un papier qui dit en gros que cette chanson avait sans doute été faite pour provoquer, hein, pour la provoque, comme on dit, qu'elle dormait dans les tréfonds d'Internet sans que personne ne l'écoute ou ne la remarque, ou presque personne, et que c'est l'indignation qui crée le scandale, mais les indignés vous accusent de le minimiser. C'est un cas d'école assez intéressant, je trouve.
Oui, parce qu'on est typiquement dans Twitter, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire on prend une chanson inconnue, des gens d'extrême droite la repèrent, la propulsent, et en une demi-journée, vous avez des réactions de ministres, de députés, de tout
le monde. Communiqués officiels, oui.
Des communiqués officiels, des choses comme ça. Tout le monde s'emballe parce que tout le monde est sur Twitter et que tout le monde est suratentif à ce qui s'y déroule et que personne veut rater la polémique du jour. Et quand derrière, vous allez dire attention quand même, parce que là, c'est vous qui faites en sorte de populariser cette chanson et quelque part, vous servez ce que voulait ce rappeur qui cherchait du buzz, eh ben, c'est sur vous qu'on va taper, parce que je pense, quand on a été en colère, et c'est le problème de Twitter, c'est que c'est un réseau où on est beaucoup en colère ou en indignation, c'est très compliqué d'arriver à se dire, j'ai peut-être été en colère à tort ou pour de mauvaises raisons.
Mais au final, ce rappeur a bien été condamné pour provocation au crime.
Il a été condamné, ça c'était pas le souci, il a été condamné à 3000 euros d'amende, je crois, oui. Il a fait appel. Le souci c'était que si on l'avait laissé dans son coin, enfin je veux dire, si on va chercher tous les rappeurs qui font 500 vues sur des clips YouTube provocateurs, on n'a pas fini.
Ouais,
donc évidemment, oui, il a été condamné.
Et on pourrait condamner tout le monde, mais effectivement, il a été rendu visible par cette polémique et il était jusque-là parfaitement ignoré. Mais l'histoire qui vous a achevé, Samuel Laurent, c'est celle de la fausse intrusion de manifestants gilets jaunes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des militants de la majorité s'en prennent à vous avec une violence et une intensité jamais vues. Et là aussi, on peut se demander, est-ce qu'il était possible d'ignorer, est-ce que les choses auraient pu être différentes si vous n'aviez pas été, vous, au départ, profondément immergé dans le bain Twitter?
Peut-être que ça aurait été différent. En l'occurrence, on a vraiment fait un papier et à ce moment-là, je m'étais déjà beaucoup éloigné de Twitter. Ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une espèce d'armée de trolls qu'on retrouvait aussi dans les commentaires du Monde.
Enquête que vous avez faite par la suite. Ouais.
Voilà, et qu'on a fait une enquête sur ces gens-là et que forcément, en faisant cette enquête, ils sont venus à chaque fois nous dire que, en gros, on avait tort de faire cette enquête, que d'ailleurs, ils n'étaient pas du tout organisés. La preuve étant qu'ils venaient par paquet de 500 nous le dire de manière assez précise avec des éléments de langage assez similaires. Mmh. En vérité, ils l'étaient et en vérité, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, un parti politique aujourd'hui peut-il se permettre de ne pas avoir son armée militante en ligne? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une course à l'armement et qu'ils sont tous, quelque part, contraints d'avoir cette espèce d'armée pour lutter, pour imposer leur récit, quoi.
Et ils ont tous les mêmes caractéristiques, que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou au centre, c'est d'essayer de saper les fondements de la réalité, d'avoir cette réalité alternative, comme c'était dit chez les partisans de Trump.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'imposer son récit. Mmh. Et c'est vraiment, on est dans une bataille de récits. Il y a un autre exemple que je prends dans le livre qui est intéressant, c'est l'an dernier, il y avait une première manif des soignants post-déconfinement, et il y avait eu cette infirmière, avec une première image d'une infirmière qui est au sol, qui s'est fait gazer par un CRS. Donc première vague d'indignation sur cette infirmière qui a rien fait, enfin on est encore dans les soignants sont des héros, etc. de la crise. Et puis dans les 2-3 heures, il y a des comptes anonymes de policiers, parce qu'il y a aussi des comptes anonymes de policiers qui sont très, très actifs sur Twitter pour défendre la version de la police, qui publient une image où on voit la même infirmière en train de jeter des pierres. Et là tout de suite le récit s'inverse. Et on est vraiment dans cette espèce de logique de Twitter où c'est du tout ou rien, c'est du noir ou blanc, et où on a beaucoup de mal à accepter une nuance, qu'on peut avoir jeté un caillou et puis s'être fait taper par un CRS, et que les deux réalités peuvent coexister, quoi.
C'est en tout cas un outil qui a profondément transformé la pratique de l'information, avec en appui la caisse de résonance des chaînes d'information qui sont branchées sur Twitter et inversement, si je puis dire. Un dernier mot, Samuel Laurent, c'est un outil qui, selon vous, peut encore être corrigé par la modération, par un ensemble de bonnes pratiques?
Oui, je pense qu'une des premières choses à comprendre, c'est que nous, les journalistes, on ne peut pas être des utilisateurs lambda et on ne peut pas ignorer le fait que ce réseau a des effets comme ça délétères, d'emballement, et que si on joue ce jeu de la surenchère, on y participe et on l'aggrave, en fait. Et que c'est sans doute avant tout à nous qui sommes des utilisateurs, entre guillemets, professionnels de la parole, d'adopter une certaine modération dans la manière dont on s'y comporte et de pas rentrer dans ce jeu des clashs. Et peut-être aussi d'apprendre à aller voir un peu ailleurs sur d'autres réseaux, parce qu'il se passe aussi beaucoup d'autres choses sur Facebook notamment, qu'on ne regarde pas parce qu'on est tous focalisés sur le même réseau Twitter.
Et il se passe aussi de très bonnes productions journalistiques sur les sites d'information.
Absolument. Sinon, voilà.
Aussi par aussi. Ailleurs quand même. Et sur le fil AFP où il y a beaucoup d'informations que je défends. Merci beaucoup Samuel Merci Laurent. J'ai vu naître le monstre Twitter va-t-il tuer la démocratie aux éditions Les Arènes.